rien. Bon. Anne vient de remettre la, l'enregistrement. Pas quoi s'y remettre. Alors, on y revient. On revient à cette idée. La présentation, je vous ai mis ici un petit mot, un extrait de ce qu'on appelle la présentation générale du missel romain. Donc, je vous ai parlé de la liturgie, avec ses deux parties, liturgie des heures, liturgie eucharistique, et tout ça est consigné dans un livre, ou plutôt une série de livres, énorme, qu'on appelle le missel romain. C'est le missel de toute l'église latine, catholique romaine, donc latine, et latine. Et ce missel, donc il y a tous les textes, les lectures, les prières, les oraisons, les gestes à faire, etc. Et il est expliqué dans un ouvrage qu'on appelle la présentation générale du missel romain. Tout ça, moi, je ne les ai pas. Hein, c'est accessible sur le net. Le Vatican fait très bien son travail sur ce plan-là. Et je vous ai mis le début du paragraphe sur la messe de cette présentation générale du missel romain. Alors, la célébration de la messe comme action du Christ et du peuple de Dieu organisée hiérarchiquement est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église, aussi bien universelle que locale et pour chacun des fidèles. C'est en elle, en effet, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et du culte que l'humanité offre au Père en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils de Dieu. En outre, c'est dans cette célébration que les mystères de la rédemption, au cours du cycle annuel, sont commémorés de telle sorte qu'ils sont rendus présents d'une certaine façon. Quant aux autres actions sacrées et à toutes les œuvres de la vie chrétienne, elles s'y relient, elles y trouvent leur source et leur fin. On a tout dit sur la messe. Enfin, pas tout, mais beaucoup. Tout d'abord, la messe, c'est une célébration. Une célébration, c'est une action. C'est une action de qui ? C'est une action du Christ et du peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu, il ne faudrait quand même pas oublier qu'il est organisé hiérarchiquement. On y reviendra. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Cette célébration, c'est le centre de la vie chrétienne. Pour l'Église. L'Église universelle. Alors, l'Église universelle, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'idée. Ce n'est pas l'Église romaine. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très subtil, parce que trop de gens entendent Église romaine. L'Église universelle, c'est l'Église telle que, finalement, on pense, telle que l'Esprit l'amène pour aller vers le royaume. C'est donc quelque chose qui est de l'ordre de la perfection. C'est celle dont on dit qu'elle est une sainte catholique et apostolique. Ça ne veut pas dire qu'elle a une réalisation terrestre. Toutes nos réalisations de l'Église ne sont que des essais de se conformer à ce que pourrait être l'Église universelle. Mais donc, c'est le centre de l'Église. Pour cette Église universelle à laquelle on croit, mais qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas appréhender, qui est de l'ordre de l'espérance et de la foi, et l'Église locale, et bien l'Église locale, c'est celle qu'on est quand on célèbre l'Eucharistie, et pour chacun des fidèles. Donc, c'est l'Église d'abord, et chacun des fidèles qui a cette action dans, au centre de sa vie. Alors, pourquoi? C'est en elle, dans la messe, dans la célébration de la messe, que se trouve le sommet de l'action. Mais qui c'est qui agit? C'est Dieu, par laquelle Dieu sanctifie le monde. Donc, la messe, c'est l'action par laquelle Dieu sanctifie le monde. Et, en réponse, il y a un culte que l'humanité offre au Père, en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ. Donc, dans la Trinité, mais c'est le Père qui reçoit toute adoration et toute gloire, comme on va dire tout à l'heure. En outre, donc ça, c'est le premier. En outre, dans cette célébration de la messe, du fait du cycle annuel, les mystères de la rédemption sont célébrés. Alors, je vous rappelle le cycle annuel. On a l'avant, tout d'abord, l'attente, le temps de l'attente, Noël, le temps de Noël, c'est-à-dire la célébration de l'incarnation, un petit bout de temps ordinaire, n'oublions pas, notre temps ordinaire, c'est notre temps eschatologique, celui dans lequel on est dans l'attente, dans où on essaye de faire exister un petit peu du royaume de Dieu sur la terre. Puis on va passer à ce carême, cette préparation au grand mystère pascal, la semaine sainte, avec toute la célébration du mystère pascal, Pâques, tout ce temps de Pâques, le temps pascal qui continue jusqu'à la Pentecôte, et on re-rentre dans notre temps eschatologique, et de façon extrêmement pédagogique, on va finir ce temps eschatologique par la fin des temps, la fête de tous les saints, la communion des saints, la célébration des défunts. Et à la fin, le dernier dimanche, c'est le Christ, roi de l'univers. Vous voyez cette espèce de pédagogie du temps liturgique sur l'année qui nous fait voir tout le mystère de notre vie chrétienne. Et donc, là, la question de commémorer, on va revenir, c'est-à-dire de rendre présent d'une certaine façon commémorer. Après ça, il y a les autres actions sacrées. Les autres actions sacrées, c'est tout ce qu'on peut faire comme pratique explicitement religieuse. La liturgie des heures, bien sûr, mais un chapelet, un pèlerinage, l'adoration eucharistique, et les œuvres de la vie chrétienne. Les œuvres de la vie chrétienne, eh bien, c'est tout ce qu'on fait pour être des bons chrétiens. Et être des bons chrétiens, c'est souvent être simplement des gens « bien », entre guillemets. Tout ça, finalement, ça se trouve, ça se... Et sa fin, c'est-à-dire sa finalité, son but, dans la célébration de la messe, c'est-à-dire, comme on le dit à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Donc, si on relie bien toutes les actions sacrées à ce mystère pascal qu'on accueille, célèbre et dans nos vies toutes les fois qu'on va à la messe, eh bien, on va être dans une sorte de réalité de la vie chrétienne. Voilà. Alors, c'est pour ça que maintenant, on va se contenter de lire la prière eucharistique numéro 3 que je vous ai mise sur une feuille parce que j'en ai mis des petits bouts pour me servir de support pendant que je fais le cours, mais vous avez le texte complet sur la feuille.
On pourra vous poser des questions à la fin.
peut prendre, allez, on peut prendre 4 minutes de questions. Ah. Oui.
Alors, dans cette présentation générale de la messe et de,
oui,
de l'Eucharistie, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'est pas question des textes même, des lectures, et en particulier de l'Évangile. Comment ça s'intègre ? Ce n'est pas évoqué.
Alors, je pense que c'est quand même un peu évoqué par les mystères de la rédemption.
Oui, mais
effectivement, c'est pas. C'est peut-être simplement parce que j'ai pris le numéro 16 et que c'est au numéro 17 ou au numéro 15.
Ah bon ?
Hein ? Parce que c'est toujours le problème de prendre un extrait.
Ah oui, parce que pour. Enfin, tel que nous la vivons, cette célébration,
il y a...
les textes sont essentiels, et en particulier l'Évangile.
Ah, en particulier l'Évangile.
Tout se joue autour.
Voilà, absolument.
Pas que, mais beaucoup se joue.
Beaucoup se joue, voilà. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est simplement que la question des textes n'est pas dans ce paragraphe numéro 16.
D'accord. Moi, c'est la question de... Alors, je ne sais pas comment je vais arriver à tourner ça. La question du mystère romain. Vous avez bien fait tout à l'heure la différence avec l'Église universelle, qui n'est pas que l'Église de Rome. Or, c'est l'Église de Rome qui nous envoie un texte pour le mystère romain. Voilà. Là-dessus, c'est... Enfin, votre cours me laisse en arrière-pensée tout ce que mes enfants me disent, qu'ils n'ont pas besoin d'aller à la messe pour être chrétien, qu'ils n'ont pas besoin de l'Église, que. Voilà. Et là, justement, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que, évidemment, c'est une vision, on ne peut plus catho-catho,
oui.
Ok. Mais est-ce que l'orthodoxe ou le protestant est moins chrétien que moi, alors que justement il ne participe pas au repas eucharistique?
Alors, on reviendra sur cette question de l'intercommunion qui est très complexe, mais ce missel romain, c'est finalement un texte qui nous est donné par l'Église à laquelle nous appartenons, qui a été travaillé, mais qui est quand même ce que j'appellerais une espèce de manducation, c'est un mot un peu savant, un travail et un retravail de tout ce que 20 siècles d'Église a pu faire en matière de liturgie eucharistique pour essayer de coller le moins mal possible à la fois à notre ici et maintenant, et à la fois à la structure de la prière d'un peuple depuis 20 siècles.
Ce qui veut dire que ça peut encore changer.
Ce qui veut dire que ça peut encore changer, que le missel précédent, c'était le fameux missel de Saint Pie V, qui n'a pas été aboli, puisque la prière eucharistique numéro 1, c'est celle qui provient de ce missel-là, et qui n'avait pas tout à fait les mêmes gestes, la même façon de se disposer dans l'espace, qui posait les questions différemment, puisque le Concile de Trente avait pensé que l'unité visible, marquée par l'utilisation d'une seule et même langue dans toute l'Église, permettait d'appréhender dans son corps, dans son esprit, dans son peuple, l'unité spirituelle voulue, et donc c'était le sens d'utiliser tous la même langue, le latin qui, ne l'oublions pas, au XVIe siècle n'était plus parlé par personne, alors que le Vatican II va décider qu'au contraire, c'est au-delà de nos différences de langue que l'unité se fait. Donc on est toujours dans des symboles. Quand la messe du missel romain ancien se faisait avec le prêtre dos au peuple, c'était pas tout à fait ça, c'était d'un seul mouvement toute l'Église en marche vers son père, alors que avec un prêtre face au peuple et donc dans certaines Églises une disposition plus en rond, on a l'Esprit Saint qui fait notre unité qui nous unit tous alors qu'on est tous ensemble. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a un symbole qui est meilleur que l'autre. Il y a un symbole qui est peut-être pas forcément plus adapté à l'époque, qui va nous rappeler que le symbole précédent nous avait fait oublier quelque chose. Vous voyez ? Et c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, cette prière...
Aujourd'hui, il y a quand même une liaison un peu clivante, hein, entre justement la messe telle qu'elle était avant et aujourd'hui.
Ça, il y a des gens qui ont envie qu'elle soit clivante.
Des deux côtés, hein.
Des deux côtés, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas pour autant, moi je ne vous ai pas parlé de quelque chose de clivant, je vous ai parlé de symboles différents et du fait qu'en changeant la symbolique, ça ne veut pas dire qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre, mais ça signifie on a un peu oublié le symbole, par exemple, on a oublié qu'on était tous unis au-delà de notre diversité de langue, alors qu'avant, on utilisait la même langue pour manifester notre unité.
C'est-à-dire qu'unité n'est pas uniformisation.
Voilà, c'est ce sur quoi on veut insister aujourd'hui. Mais il y a... donc tout ça, ça fait que les symboles sont toujours plus ou moins... ils ont tous leurs limites et leurs richesses. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aussi sur ces symboles ? Je ne sais plus ce que j'avais dans la tête. Ça reviendra, c'est pas grave.
Excusez-moi, c'est bien.
Voilà. Donc, la prière eucharistique qu'on va lire maintenant, c'est la numéro 3, parce que c'est celle qui est la plus travaillée à partir de compilations de prières eucharistiques anciennes. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là à vous faire travailler. Le fait d'avoir choisi quatre prières eucharistiques, bon, il y en a d'autres hein, qui sont autorisées, mais il y en a quatre principales, ça n'est pas sans lien avec le fait qu'il y ait quatre évangiles. À tout hasard, la plus courte, c'est celle de Marc, le plus court évangile, la plus courte prière eucharistique, c'est la deuxième. Et c'est quelque part de vouloir montrer qu'on ne peut pas enfermer la parole de Dieu, le rite de l'Eucharistie, dans une parole unique. Mais d'un autre côté, il faut un rite dans lequel on se retrouve tous. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'expérience que moi j'ai eue d'aller à la messe dans une langue dont vous ne comprenez pas un traître mot. Je ne parle pas d'y aller en espagnol ou en italien ou en anglais où on se raccroche toujours un peu. Ouais. Mais dans une langue dont vous ne comprenez pas le premier mot. Vous avez une structure qui fait que vous ne vous perdez pas. Vous voyez ? Et c'est assez important finalement d'avoir ça. Cette structure qui, quelque part, est immuable malgré le fait que les cantiques, etc., sont différents. Et donc, on était là. Alors, je ne parle pas aujourd'hui, parce que je n'ai que 2 heures, que je ne peux pas faire tout, de la première partie de la messe, dont je n'oublie pas l'importance, hein, qui est toute cette partie de parole. Je vais commencer au début de la préface. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est ce que je t'ai mis en début de texte. Hein. Et aller jusqu'à ce qu'on appelle la doxologie, par lui, avec lui et en lui. Là, j'ai simplement mis le plan, le premier dialogue. Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Ce qu'on appelle la préface. Alors la préface, je crois qu'il y en a plus de 50 dans le missel romain, qui fait que celle que prend le prêtre, c'est jamais celle que vous avez dans votre magnificat ou votre prion en église. Mais il y en a beaucoup, et elles n'ont pas eu tellement à être réécrites au moment du missel romain, parce qu'il y en avait déjà beaucoup d'écrites. Après, il y a le Sanctus. Donc, dialogue. La préface, c'est le prêtre. Sanctus, c'est l'assemblée. Début de la prière eucharistique, le prêtre. Récit de l'institution, l'ensemble des prêtres. L'acclamation qu'on appelle l'anamnèse, l'assemblée. La prière qui suit, les prêtres qui concélèbrent en général se passent le micro les uns les autres. Puis ce qu'on appelle la doxologie, le par lui, avec lui et en lui, qui se termine par la messe. Donc, une structure qui, même quand on ne prend aucune des quatre prières eucharistiques, est en général respectée. On va maintenant un petit peu voir les quelques parties, mais d'abord on va voir le temps. L'ensemble de la prière, à part le récit de l'institution, c'est à la première personne du pluriel. Tout est en nous. Hein? Extrêmement important. Qui c'est le nous? C'est le nous ecclésial. Donc, à part le récit de l'institution, toute la prière est en nous. Non, je sens tout, il n'y a pas de nous dans le sens. Et là non plus, c'est le nous et celui qui dit là. Mais c'est pas, il n'y a pas de nous dans le sens. Donc, l'ensemble de la prière est en nous. À qui elle s'adresse? Elle s'adresse à un tu. Ce tu, à part dans l'acclamation de l'anamnèse, c'est le Christ. Et là, le sanctus, il y a les deux, le Père et le Fils. Sinon, le tu, c'est toujours, toujours le Père. Donc, extrêmement important, c'est une prière qui est en nous, le nous ecclésial, et elle s'adresse au Père globalement. On va mieux voir le caractère donc trinitaire. Toute la prière s'adresse au Père, à part l'anamnèse qui s'adresse à Jésus-Christ. Deuxième chose, le mystère pascal est évoqué tout le long, dans la préface, celle que je vous ai mise, et dans toutes les préfaces. Et dans le Sanctus, on parle de louange. Et on la partage entre Dieu, le Seigneur Dieu de l'univers, a priori le Père, et le Christ, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, une structure trinitaire, entre guillemets, incomplète. Dans les deux parties de la prière eucharistique, je vous rappelle qu'il y a une prière avant le récit de l'institution, une prière après, les deux fois, il y a l'Esprit est invoqué. C'est ce qu'on appelle les épiclèses, invocation à l'Esprit Saint. Dans les deux parties, on évoque le mystère pascal, et la plupart du temps, quand on parle de Jésus-Christ, on dit « ton Fils ». Je vous rappelle que la prière s'adresse au Père, c'est un nous qui s'adresse au Père. Et bien sûr, la doxologie est trinitaire, mais rappelez-vous, c'est à toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire, mais par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit. Donc, vous voyez une structure trinitaire et hiérarchique, entre guillemets. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, une profession de foi trinitaire. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai choisi la croix parce que c'est celle qui est le plus faite de compilations de prières anciennes du premier millénaire. Je me rappelle, donc j'étais toute petite, quand ce missel romain est sorti, mon curé m'a dit avec son accent méridional, je suis provençale, vu que la prière numéro 3, c'est celle qui était utilisée dans le diocèse d'Arles au XIIe siècle, c'est celle que je prendrai. Alors, c'était pas tout à fait juste, mais c'était pas tout à fait faux. Et du coup, il avait fait tout à fait admettre à ses paroissiens que c'était pas une invention qui tombait du ciel de Rome cette semaine-là, puisqu'elle venait de loin. Alors, on est juste après le Sanctus. Qu'est-ce qu'on commence par faire ? On reconnaît la grandeur de Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Pas seulement nous, c'est toute la création. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Donc, dès le début, on se situe bien. C'est Dieu qui est premier, c'est Dieu qui est saint, qui sanctifie toutes choses. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple. Ça y est, nous sommes en Église. C'est Dieu qui nous rassemble. Pourquoi ? Pour qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Nous répondons à l'action première du Seigneur qui nous rassemble. Notre rassemblement n'est qu'une réponse à une convocation. J'aime pas trop le mot convocation parce que ça a un peu l'air d'être aux ordres. Une invitation première, un amour premier qui se donne. Cette sanctification, être saint, c'est la qualité de Dieu, qui est tout amour, qui est tout don, qui est créateur. Et la sanctification, c'est l'occasion pour nous de participer à la vie de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Et nous, on répond à ce Dieu. Et nous nous rassemblons en ce premier jour de la semaine, dans la communion de toute l'Église, pour célébrer le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, alors qu'on va faire le mémorial du dernier repas, qui, si vous avez bien lu votre évangile, a eu lieu un jeudi soir, nous nous réunissons le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Donc, alors qu'on fait le récit du jeudi saint, on célèbre la résurrection. Le mystère pascal est un et indivisible. Et ce qu'on célèbre, c'est cette résurrection. Et on le fait dans la communion de toute l'Église. Alors, de toute l'Église, c'est à la fois toutes les églises locales qui se réunissent également le dimanche, mais c'est également cette Église universelle dont à laquelle nous croyons et qui malheureusement peine à apparaître, mais à laquelle nous croyons et que Dieu nous donne. Donc, ce qui est important de voir, c'est que à chaque messe, et plus particulièrement à chaque messe du dimanche, c'est l'Église qui se réalise localement, l'Église universelle qui est là, présente localement. elle se réalise, ça veut dire qu'elle se fabrique, mais elle prend également conscience d'elle-même. Je réalise quelque chose, je prends conscience de moi-même, je prends conscience de quelque chose. Vous voyez ce double sens de réalisme. Alors, on continue. Là, c'est la prière juste avant le récit de l'institution. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Des choses importantes. On est toujours dans un « nous » qui s'adresse à un « tu » qui est le Père. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est clair. On a changé un petit peu de ton. C'est-à-dire qu'on est passé de la reconnaissance du don à la prière de demande. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes. C'est le Père qui consacre les offrandes, qui va les sanctifier, c'est-à-dire qui va les changer en quelque chose qui est de l'ordre de Dieu. Sanctifier, c'est donner la qualité de Dieu à quelque chose. Et c'est par cette sanctification qu'elles deviendront corps et sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Donc, je vous ai parlé d'un cantique tout à l'heure. Faites attention au cantique que vous prenez. Ce n'est pas Jésus qui descend. C'est le Père qui sanctifie. C'est un petit peu différent. Et quand Paul nous disait dans le premier texte que je vous ai mis, « Fuyez l'idolâtrie », c'est là qu'il parle.
C'est en faisant référence à ses paroles.
En faisant référence à ses paroles. L'idolâtrie, c'est de ne pas bien comprendre, pour Paul, ce sens de l'Eucharistie, ce sens du partage du pain. Alors là, il le dit aussi dans le contexte de gens qui vont manger qui son pain blanc, qui pas du tout, parce qu'il n'a pas apporté de pain. Hein. Il ne faut pas oublier. N'oubliez pas ce qu'on a vu avec Madame Dupont-Roc. Alors, la prière qui était un nous qui s'adresse à un tu, sous forme à la fois d'abord d'action de grâce, puis de supplication, est maintenant interrompue en tant que prière par un nouveau genre littéraire qui est le récit de l'institution. Donc, on change de ton, on est dans le narratif. Et il s'agit de faire mémoire. L'Église est un corps social qui est constitué dans l'Eucharistie, mais cette Eucharistie qu'on fabrique, elle ne rajoute rien à Jésus-Christ, à l'événement Jésus-Christ, au salut qui est déjà fait. Il ne s'agit pas ni de recommencer, de réitérer le sacrifice du Christ, ni d'en rajouter, ni de le continuer. Il s'agit de le rendre présent à notre mémoire. C'est la catégorie juive du mémorial. Rendre présent l'action de Dieu qu'il a fait et qu'il continue et qui est présente de toute éternité. D'accord ? Donc, l'action que Dieu a faite au passé, une bonne fois pour tous, Jésus, dans l'Épître aux Hébreux que nous lisons actuellement dans la messe du dimanche, c'est très très clair. Il n'y a pas besoin que le grand prêtre réitère le sacrifice régulièrement pour les péchés. Jésus l'a fait une bonne fois pour toutes. C'est l'Épître aux Hébreux, deuxième lecture en ce moment. Et là, Dans l'espace et le temps du récit, dans l'espace de la célébration eucharistique, on rend présent ce que Jésus a fait. On ne le réitère pas, on ne le continue pas, on le rend présent, on le rend effectif. Cette action de Dieu par le Christ fait irruption dans l'ici et maintenant de la célébration eucharistique. C'est ce que les linguistes appellent un récit performatif. Il réalise ce qu'il dit. D'accord ? À ce récit...
Il n'y en a pas beaucoup, des récits comme ça. Le récit performatif, il n'y a que celui-ci.
Alors, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un récit, mais c'est une parole performative. Toutes les paroles sacramentelles. Les paroles du pardon également dans la confession. Je te prends pour époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie, etc. Vous voyez ? Alors, à ce récit, nous répondons, proclamons le mystère de la foi. Donc, là, on repasse au nous, et le nous parle, et vous voyez cette structure eschatologique. Gloire à toi qui étais mort. L'événement pascal. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. J'aurais pu dire également, nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection, on ne va pas célébrer la mort, mais on la proclame car elle fait partie de l'événement du salut et nous attendons ta venue dans la gloire. Après cette acclamation qui nous permet à toute l'assemblée d'avoir repris possession de ce récit, donc d'être dans cette église qui est sanctifiée, le prêtre reprend la prière. Il nous redit cette vision eschatologique en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de sa ascension dans le ciel, le mystère pascal en un seul lot, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Toujours la première démarche, c'est l'action de grâce. Avant tout, la première démarche devant Dieu. Regarde Seigneur, on change de tonalité, on repasse à la prière de demande, le sacrifice de ton Église. C'est l'Église qui a donné le sacrifice, c'est pas toi, moi et les autres, c'est l'Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton esprit. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Donc, la demande, c'est une demande d'être Église, d'être un seul corps. Après ça,
de manière trinitaire,
toute façon, tout le temps. On continue le suite. On continue notre demande. Qu'est-ce qu'on va demander là ? On va le demander à l'Esprit Saint. D'abord, que l'Esprit Saint fasse de nous, en premier lieu, une éternelle offrande à ta gloire. Le premier commandement, là je reviens encore à la messe de dimanche, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi. Donc, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Donc, perspective eschatologique. Et pourquoi évoquer la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints, cette idée que l'Église est une, que l'Église, c'est pas seulement nous qui sommes sur la terre, c'est aussi tous les bienheureux qui prient déjà, qui sont déjà dans la gloire, et qui nous portent, qui intercèdent pour nous. Et après, une supplication pour le présent. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Extrêmement, extrêmement fort, ça. Ce qui est à étendre au monde entier, c'est le salut, la paix. Ce sont des dons de Dieu. Ce n'est pas forcément l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a aucun rôle à jouer là-dedans, mais on n'est pas en train de dire que pour que le monde entier ait le salut, il faut que le monde entier se superpose à l'Église. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. On est là, dans cette dimension terrestre de l'Église qui peine. Et cette Église terrestre, eh bien, elle est structurée hiérarchiquement. On reparlera, mais veille sur ton serviteur le pape, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Donc la structure très, très forte et très hiérarchisée de l'Église, on prendra un cours pour ça, hein, parce que ça le mérite, on ne peut pas faire ça uniquement comme ça. Je voudrais simplement dire un petit détail. Quand on cite notre évêque, c'est l'évêque du lieu où on est présentement. Oui, non, ce n'est pas si simple que ça. Ce qui signifie que normalement, ça ne veut pas dire que tout le monde le fasse, hein, si vous êtes la paroisse Saint-Ferdinand de Paris, que vous allez en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise en paroisse, que vous dites la messe en paroisse Saint-Ferdinand des Termes de Paris, vous paierez pour notre évêque Stanislas, évêque de Pontoise, et non pas pour notre évêque Michel, qui est l'évêque de la communauté paroissiale, parce que vous évoquez un ici et maintenant de l'Église au moment où vous célébrez. Et le fait de citer dans la prière eucharistique non pas l'évêque qu'on reconnaît comme son supérieur hiérarchique, mais l'évêque du lieu dans lequel on est une façon symbolique de dire on est ici et maintenant l'Église universelle. Après ça, il y a... c'est pas toujours fait dans ce cas que je vous dis. Il faut pas non plus mettre Martel en tête quand on n'est pas dans la règle. Mais simplement pour vous dire d'où vient cette symbolique.
C'est un effort d'unité.
C'est un effort d'unité, effectivement. Alors, écoute les prières assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés.
Les rachetés, ce sont les morts qui sont au ciel ou c'est nous ?
Les rachetés, tout le peuple des rachetés, Dieu seul sait qui sont les rachetés. Et ici, à propos des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous n'allons pas décider pour Dieu qui est droit.
Et pourtant, l'Église canonise à tour de bras.
Quoi ?
Et pourtant, l'Église canonise à tour de bras.
Canoniser, ça ne veut pas dire qu'on élimine de la communion des saints les non-saints. Ça veut dire ceux qu'on canonise valent le coup par leur diversité. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y en ait beaucoup, de nous montrer combien la vraie vie chrétienne peut être diverse, variée, possible, dans des conditions très différentes. Ça ne veut absolument pas dire que les non-canonisés n'ont pas droit au titre de saint.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que l'Église s'octroyait le droit de dire toi, tu es saint, et toi. Voilà, au titre de, je sais bien, d'un procès très long.
Voilà.
Mais c'est quand même l'Église qui le dit.
Mais elle le dit parce que dans sa foi, elle ne peut pas imaginer. Ouais. Vous le voyez des fois. À des célébrations d'obsèques, vous ne pouvez pas imaginer que la personne ne soit pas accueillie à bras ouverts par le père. Donc les enfants dispersés, là, on ne sait pas du tout de qui il s'agit, s'il s'agit des chrétiens dispersés, s'il s'agit des hommes de bonne volonté, etc. Et c'est très bien de ne pas le savoir.
Voilà. Les schismes.
Voilà. On ne sait pas, et c'est très bien de ne pas le savoir. Ensuite, les frères défunts, ouais, également, qu'ils soient reçus dans ton royaume. Et ne nous prononçons pas, sinon sur le fait qu'on prie pour tout le monde. Voilà. D'accord ? Bon, ben on arrive au bout.
Merci.
Alors attendez, hein, je vais quand même donner la... Donc, j'ai une petite... conclusion, hein. L'Eucharistie, c'est toujours célébré dans un lieu à un instant donné. Ce qu'on appelle en latin un hic et nunc, un ici et maintenant. Et ça veut dire, mais c'est pas un petit morceau d'église, c'est toujours la plénitude de l'église qui célèbre. C'est l'église qui célèbre. Finalement, l'église locale, celle qui s'élève, c'est pas une partie de l'église, c'est la manifestation du corps unique de l'église, indivisible, qui en un lieu. Alors, évidemment, ce serait mieux si on pouvait être une chrétienté, un ensemble des chrétiens unis et qu'on puisse partager la même Eucharistie. On serait plus content quand même. La présidence par l'évêque ou son représentant, le prêtre est un représentant de l'évêque, est liée à cette manifestation visible de l'Église. Dans l'esprit, le Christ unit tous les fidèles. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit, dans un seul esprit, en un seul corps, puisqu'il y a comme faute de frappe, je suis désolée. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le Christ, dans l'esprit, nous unit par la participation à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie manifeste la nature eschatologique de l'Église. Quelque part, elle dit un présent du salut qui est un déjà là, mais un pas encore. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'Eucharistie, avec toutes les limites, bien sûr, qu'on verra un peu mieux quand on étudiera la question des chrétiens séparés, mais que j'ai évoqué ce matin, en début de cours, en vous parlant de la rupture au sein de l'orthodoxie. Voilà. Alors que ce sont les orthodoxes qui nous ont fait redécouvrir ce sens de l'Eucharistie.
Merci beaucoup.
De rien. Alors, on a quelques minutes si vous voulez des questions. Alors, la communion sous les deux espèces, là encore, il y a la fameuse rupture du 12e. La foi de l'Église a toujours dit que la communion sous une seule espèce suffit pour la participation pleine et entière au corps du Christ, que ce soit l'une ou l'autre des espèces. Très tôt, il ne faut pas oublier que si on n'avait pas d'adoration eucharistique, on portait la communion aux absents, malades et prisonniers. très tôt, on a porté que le pain, parce que le vin, ça se renverse. Soyons clairs, on est sur des questions bêtement pratiques. Petit à petit, on est venu à ne plus pratiquer la communion des deux espèces pour les laïcs, essentiellement pour des questions d'hygiène. Dès le 11-12e, là, on a des textes disant que ces chevaliers avec leurs grandes moustaches qui trempent dans la coupe, c'est dégueulasse, quoi. Soyons. Et au concile, quand on décide de. Quand on discute de la communion sous les deux espèces, de savoir si on va ou non la rétablir, on voit des évêques dire, mais enfin, les femmes sont maquillées, elles portent du rouge à lèvres, on ne va pas... Ah ben, il y a ça dans les actes du concile. Ce n'est pas dans les textes, je vous rassure. Mais dans les discussions, on a ça. Bon. Et le concile renvoie ça aux évêques. C'est pour ça qu'ils y suivent, comme vous dites. Renvoie ça aux évêques.
Et pourtant, ils n'aiment pas quand on...
Alors, la question de la façon dont on le fait, Benoît XVI a estimé qu'on ne pouvait communier sous les deux espèces que avec le prêtre qui met l'hostie dans le calice et qui vous la met directement dans la bouche. Ça fait partie des règles que Benoît XVI a mises, qui ont été très controversées. Il l'a dit, après, le concile avait renvoyé à chaque diocèse ses propres règles. Donc, c'est très variable d'un diocèse à l'autre, même si ça ne s'est pas généralisé, et même à l'intérieur d'un diocèse, les paroisses ont différentes façons de faire.
Mais il y a quand même un retour, hein, vraiment net, communier sous les deux formes.
Oui. Je trouve que c'est très variable d'un diocèse à l'autre et d'une église à l'autre. Pour moi, qui ai vécu 12 ans dans le diocèse de Toulouse, où c'était systématique à toutes les messes, dans toutes les paroisses, je peux vous dire que le retour en région parisienne, ça a été la douche un peu bizarre.
C'est sous les deux espèces à Toulouse.
À Toulouse, à l'époque. Je ne sais pas si ça n'a pas changé avec les changements d'évêques. Mais quand j'habitais Toulouse, c'était toutes les paroisses à toutes les messes. Les deux espèces. Ça a changé. Je ne suis pas sûre que ça n'ait pas changé en changeant d'évêque. Hein, je ne peux pas vous dire. Donc, c'est quelque chose qui est renvoyé aux évêques.
La communion dans la main.
La communion dans la main est également autorisée par Vatican II, mais je crois que c'est également renvoyé aux évêques. Par contre, c'était explicitement la forme... décrite par Augustin.
Oui, dans la main.
Oui. Voilà, fait un trône avec la main. Voilà. Alors ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas tranchées comme par le missel romain et qui sont renvoyées aux évêques. Mais Benoît XVI a dit quelques mots dans son motu proprio, mais qui n'est pas quelque chose qui a un statut. Absolu, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a quand même une diversité de faire, et puis très culturelle. Alors, je rappelle quand même sur la question de la communion sous les deux espèces, il y a eu un gros incident il y a une trentaine d'années à New York. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a fait une méningite et qui est mort le soir d'une communion. Il a fallu traiter toute l'assemblée.
Non.
Il a fallu convoquer, dire est-ce que vous êtes allé à la messe à tel endroit, est-ce que vous avez communié, si oui, il vous faut votre piqûre d'antibiotiques, quoi. C'est un petit détail, mais c'est concret. Bon, il n'y a pas eu plus que ça. Donc, c'est un peu ça qui fait que l'intention, le fait de tromper l'hostie, pose moins de problèmes, mais c'est, ça n'a pas le même geste que boire à la coupe.
Mais c'est interdit dans certaines paroisses.
Voilà, ben oui, parce que Benoît, dans le motu proprio de Benoît XVI, il ne faut pas le faire. Mais donc c'est très très complexe, c'est pas tranché par le concile, Donc c'est beaucoup renvoyé aux églises locales.
Voilà. C'est pas très important non plus.
Et c'est pas très important non plus. C'est pour ça qu'il faut être ouvert aux différentes pratiques. Voilà.